Good Morning Business, la matinale de l'économie.
Sur BFM Business depuis les rencontres économiques d'Aix. On a déjà beaucoup de choses à se dire avec Philippe Aguillon et avec Éric Momy. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de BFM Business. Philippe Aguillon, évidemment, prix Nobel d'économie, professeur au Collège de France. Éric Momy. Et à l'INSEAD. Et à la School of Economics, si on dit tout, évidemment. Mais tout est bien écrit, Philippe, sur l'image, on a tous les titres. Éric Momy, vous êtes le président d'April. Vous êtes l'initiateur du mouvement Trop, c'est trop. On était en train de débriefer l'allocution de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, hier, que vous avez fait ensemble, tous les trois. Vous avez pris la parole chacun votre tour. Et puis, il y a une sorte de montée après avec Sébastien Lecornu. Philippe Aguillon, vous dites qu'il y a un avant et un après, cette prise de parole de Sébastien Lecornu.
Il y a un avant et un après, parce que enfin, alors d'abord, je voulais remercier Éric Momy, a été formidable et d'une clarté, et d'une vraiment, c'était un bonheur. Si vous voulez, oui, il y a un avant et un après, parce que ça fait plusieurs semaines qu'il y a plusieurs personnes qui se déclarent candidates. Et ça donne pas envie, voilà. Et hier, si vous voulez, j'ai vu un souffle, et voilà, c'est les grandes valeurs, c'est le patriotisme, c'est le patriotisme où on embarque tout le monde, c'est évidemment la France qui va jouer pleinement son rôle dans le relèvement de l'Europe, hein, dans le relèvement technologique de l'Europe, et également, si vous voulez, il y a eu des annonces très importantes. Sur le dialogue social, l'importance, la primauté du dialogue social, et également cette idée de dire voilà, eh bien, il y a effectivement des gens vont devenir très riches, et il n'y a rien de mal à ce qu'ils soient très riches, mais il y aura des moyens de faire en sorte que tout le monde se sente partie prenante quand même, vous voyez, avec l'idée des fondations.
Mais voilà. Vous l'avez vu, président de la République.
J'avais un sentiment devant moi d'avoir un président de la République.
Vous trouvez qu'on manque de candidats à la droite, au centre?
J'ai vu, avec un souffle, tout d'un coup, il y a, je sais pas comment dire, c'est la France, c'est un pays où très facilement ça part dans tous les sens. Et puis il y a des moments gaulliens, et il y a des moments où on réunit tout le monde et on dit voilà, vous d'abord, la France, la République, elle est là pour vous tous, l'éducation, la santé, elle est pour vous tous, et tous ensemble, on va faire de la France le fer de lance du relèvement, non seulement de l'Europe, mais il y a des pays comme le Canada qui veulent nous rejoindre, tu vois, qui veulent être partie prenante, voilà. Et de la nouvelle, de la révolution de l'intelligence artificielle, du nouveau monde. Mais on va y aller dans le dialogue social, dans la justice, tous ensemble. C'est vraiment le moment gaullien, quoi, voilà. Et j'ai senti qu'il avait ce souffle en lui, voilà. Et je ne l'avais pas senti avant. Et d'autres que moi l'ont senti également.
Éric Momy, je ne sais pas si vous avez senti le moment gaullien, vous aussi. En tout cas, sur la question du diagnostic des difficultés de l'économie française, de ce qu'on peut mettre en place. Il disait, j'espère, Éric, que vous êtes moins fâché qu'à l'automne, notamment sur la question de la taxe Zuckmann qui a fait assez mal quand même au débat et au milieu économique. Est-ce que là, vous allez mieux, vous, qu'à l'automne? Vous êtes moins fâché?
Alors, je pense que c'est une question de saison. Être fâché quand il fait extrêmement chaud, ce n'est pas une très bonne idée. En fait, la réalité, c'est que, et objectivement, moi, je rejoins ce qu'a dit Philippe Aguillon, j'ai senti du souffle. Il est pris dans le quotidien, dans une espèce de folie. C'est une lessiveuse, et pour autant, il arrive à prendre un pas de recul. Et vraiment, moi, j'ai apprécié effectivement cette capacité à se mettre à un horizon un peu plus lointain. Pour autant, on va pas se cacher à notre petit doigt. Les problèmes de la France, ils sont extrêmement présents. Les problèmes de compétitivité fiscale, les problèmes d'instabilité fiscale, les problèmes de réglementaire. On a un excès de réglementation, on est dans la surtransposition. Ils sont là. Et ce que l'on peut dire, c'est que on a un Premier ministre qui, compte tenu de la configuration qu'on connaît à l'Assemblée nationale, est extrêmement contraint. Il a, je pense, et je le dis quand même, pendant cette folie des discussions budgétaires, il a quand même réussi à garder un cap, et il n'avait pas de majorité, il avait une pression extrêmement forte des socialistes. Il a réussi à faire atterrir un budget qui, objectivement, ne nous satisfaisait pas pleinement.
Parce qu'il est quand même revenu sur la réforme des retraites. Hein.
Exactement, il est revenu sur la réforme des retraites. C'est ce en quoi ça ne nous satisfait pas. Pour autant, on a évité le pire. Vous parlez de l'attaque Zuckmann, on va pas se raconter d'histoire. Ce sujet-là, c'est un serpent de mer qui va revenir dans les débats. Au niveau du mouvement Trop c'est trop dont vous parliez, on vient de publier une étude sur la taxe Zuckman où on essaie modestement à notre niveau de permettre que le débat se fasse sur des bases non pas erronées, biaisées, militantes, parce que c'est pas, je me permets de le dire, c'est pas ce que j'ai entendu autour de la taxe Zuckman, c'est pas sérieux de la part d'économistes, et je suis désolé d'attaquer un de vos compères.
Bah, Philippe, il s'est déjà beaucoup battu contre la taxe Zuckman.
Bon, Philippe, voilà, je disais simplement.
Il a fait le jeu, Philippe.
Voilà, il y a les Nobel.
Gabriel ne veut pas débattre avec moi parce qu'il sait qu'il perd.
Bon, voilà. Donc, en tout cas, ce que l'on essaie de faire au niveau de Trop c'est trop, c'est d'éviter de caricaturer les caricaturistes. On veut absolument que le débat se fasse sur des bases sérieuses. On a publié cette première étude. Elle a été faite avec des économistes, notamment Antoine Lévy de Berkeley. Et on va en publier 6 encore d'ici la présidentielle. L'objectif pour nous, c'est véritablement d'alimenter les candidats. Je ne sais pas si le Premier ministre sera candidat. Je ne me place pas sur un terrain politique. Et nous, en tout cas, on va dialoguer avec tout le monde, y compris les socialistes qui, pendant très longtemps, ont été, on va dire, des sociaux-démocrates. La politique de l'offre, elle a commencé sous François Hollande, avec des gens qui ont été absolument exceptionnels. Et donc, moi, le mouvement Trop c'est trop est un mouvement apartisan. Et on va essayer d'alimenter ce débat pour avoir des discussions de fond.
Vous ne bougez pas, Philippe, vous gardez tout ce que vous avez à dire. Il faut que je passe une toute petite page de pub. On revient, à tout de suite. On est reparti, les 8h43 sur BFM Business depuis les rencontres économiques d'Aix. On est avec Éric Momy, avec Philippe Aguillon. Philippe, on ne parle que d'une chose quand même ce matin, dans les couloirs d'Aix-en-Provence. C'est cette histoire de redistribution au moment de l'héritage. Et cette idée achetée hier par le Premier ministre, et il a dit pas la cinglinglin, mais dans les prochains mois, oui, qu'il pourrait mettre en place quoi? Une sorte d'héritage contraint. Expliquez-nous votre idée.
Voilà, voilà. Alors d'abord, je veux dire sur la taxe Zuckman, qu'est-ce qui va pas dans la taxe Zuckman? Beaucoup de choses, mais c'est sa taxe de la richesse non réalisée. Vous êtes une licorne en formation, vous êtes comme Arthur Mensch valorisé à 12 milliards et vous ne faites pas de profit. Eh bien, Zuckman taxe sur les 12 milliards, donc vous devez emprunter ou mettre l'État comme actionnaire pour payer vos impôts, alors que vos concurrents, eux, ils empruntent pour se développer. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'IA en France. Tu fais la taxe Zuckman, l'IA part ailleurs. Ça, c'est clair. L'IA et le high-tech partent ailleurs. Donc ça, c'est... Tandis que là, il s'agit d'autre chose. Il y a quand même autour du débat Zuckman l'idée qu'il peut y avoir des grosses concentrations de richesses. Moi, je le sais, j'étais dans la Silicon Valley il y a 9 semaines et j'ai vu des capital risqueurs. Et ils disent eux-mêmes, on va être milliardaires. Certains de nous sommes déjà milliardaires. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient immédiatement milliardaires? Voilà. Et nous, on veut pouvoir contribuer. Et là, il y a cette idée très jolie, et c'est de dire, voilà, d'abord, il a montré qu'il se préoccupe du fait qu'il puisse y avoir concentration de pouvoir et concentration de richesse excessive, trop rapide. Et à ce moment-là, il dit ce qui serait intéressant, parce que voilà, l'idée, ça serait de créer des fondations d'intérêt public, gérées, co-gérées par l'État et d'autres acteurs, hein. Ça serait dans la défense, dans la souveraineté, on investit dans la souveraineté.
Et ils abonderaient ces fonds?
Et ils devraient abonder ces fonds. Voilà, ils devraient, parce que ce qui n'est pas abondé...
Et quand vous dites « devraient », c'est que s'ils ne le font pas, ils sont taxés.
Voilà, donc l'idée que tu peux dire, déjà, il y a des gens qui peuvent dire « moi j'abonde tout de suite », tu comprends? Mais l'idée, c'est de dire qu'ils devraient contribuer substantiellement à ces fonds, et le reste, évidemment, taxé, tu vois, aurait un taux réduit. Mais si tu veux, c'est l'idée qu'une partie de leur richesse, et ils auront leur nom. C'est-à-dire que les gens qui ont... Parce que tu vois, il y a les bâtisseurs d'empire. T'es bâtisseur d'empire. Tu crées une entreprise. D'abord, tu veux pas te dire, j'ai contribué à l'innovation de mon pays. Et je veux que mon nom soit associé à la souveraineté de mon pays. J'ai un exemple à vous donner. Nobel. Vous savez, le Nobel. Nobel était un artilleur. Il faisait des armes. Son frère décède. Par erreur, la presse fait une obituaire de Nobel lui-même, en disant, oui, vraiment, il ne va pas nous manquer, il a fait que fabriquer des armes. Il est effrayé par son obituaire, il dit, mais non, je ne veux pas laisser ce nom, je vais créer la Fondation Nobel. Voilà, c'est cette idée-là.
Mais il y a du mécénat aujourd'hui, Philippe.
Voilà, mais pas assez. Chez nous, il n'y en a pas assez. C'est pas assez. Non. Là, l'idée, c'est que c'est des choses d'intérêt public, co-gérées par l'État, dans des domaines bien particuliers. Ça peut être la recherche, c'est la défense, c'est peut-être la flexi-sécurité, comment gérer l'IA. On parlait tout à l'heure de l'IA. Bon, donc comment? Eh bien, et là, l'idée, c'est de dire, eh bien, je contribue à la souveraineté. Mon nom sera là. On saura que je l'ai fait. avec des incitations fiscales très très fortes. C'est-à-dire que c'est une partie de votre richesse devra aller dans, si vous, au-delà d'un certain seuil.
Donc,
je parle de milliardaires.
Mais
je parle de milliardaires, je parle pas de millionnaires, je parle de milliardaires là.
Donc
ça,
c'est
ça
le bon terme. Quand même.
Pas. Pardon.
Mais c'est n'importe quoi, c'est le bon terme. C'est
fortement. Oui, c'est
fortement.
Voilà. Alors, vous pourrez jusqu'à un certain point choisir où, mais tout le monde ne pourra pas aller dans le même. Mais c'est l'idée que c'est fortement incité, je dirais.
Et voilà. Mommy, vous en pensez quoi? J'ai des textos moi ce matin d'entrepreneurs qui me disent très bien. On n'a pas fini d'aller à Milan pour s'installer. Vous en pensez quoi, vous?
Alors, moi, je pense plusieurs choses. La première chose, je pense que l'essentiel sur lequel on doit tous se retrouver, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc, on a un travail d'éducation à faire. C'est que la folie, ça serait de vouloir taxer le capital productif. C'est exactement ce que veut faire la taxe Zucman. C'est la première fois dans l'histoire d'un pays, en gros, de l'OCDE, qu'on imagine qu'on va taxer le capital productif. La deuxième chose, c'est que on a un pacte Dutreil qui a été lui aussi bousculé. On sait qu'on va essayer de le remettre en cause, qui lui protège le capital productif. Si on touche au capital productif, sincèrement, ça va malheureusement mal se terminer dans ce pays. Et je parle pour l'économie française. Après, il y a des pistes extrêmement intéressantes. Celle de Philippe Aguillon en est une. Il y en a d'autres qui sont de regarder en France. On a 6 000 milliards d'euros d'épargne.
Oui.
Il y a probablement moyen de flécher cette épargne, comme le disait Philippe Aguillon, vers des choses qui sont tournées vers l'innovation. Donc comment on crée des incitations autour de ça?
Mais là, vous parlez pas des millionnaires. Hein,
attendez,
je
parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Je vais venir sur les millionnaires et les milliardaires. On a quelque chose qui pourrait être un fonds souverain. Ça peut s'alimenter, bien sûr, avec la retraite par capitalisation. On ne tournera pas autour de ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sur les retraites, mais il faut arrêter d'imaginer que ce pays peut vivre sans retraite par capitalisation. Ça ne fonctionnera pas. Et ça a plein de vertus à côté, évidemment, pour ceux qui épargnent, mais aussi dans la capacité d'investir dans l'innovation et dans plein de choses comme ça. Et vous pouvez imaginer que ce fonds souverain, il soit quelque part, on ait une mitigation du risque par l'État qui viendrait amortir, on va dire sur une part extrêmement limitée, une partie de ces investissements. On a plein de leviers pour effectivement flécher la richesse, l'épargne, et je vais le dire très simplement, tout le combat qu'on mène au niveau trop c'est trop, c'est pas sur la fiscalité des chefs d'entreprise, la fiscalité des riches. Les gens qui gagnent de l'argent, il est absolument normal qu'ils contribuent proportionnellement à, on va dire, au financement du pays. On démontre ici quand même que tous les faux-semblants selon lesquels les grandes familles françaises ne paieraient pas leur cote sont absolument erronés. Et nous, on parle d'économie, on parle de dynamique, on parle d'épargne dynamique. C'est ça l'enjeu.
Est-ce que vous y voyez, Philippe, aussi quelque chose de symbolique, le fait de contribuer pour les riches plus à la souveraineté ou l'industrie, le fait de pouvoir faire passer un peu de capitalisation sur les retraites,
oui,
de travailler plus?
On est sur la même ligne. C'est-à-dire, il y a par-delà l'idée des fondations, donc c'est des fonds, il y a l'idée où il y aurait un choix quand même. C'est-à-dire, les gens peuvent choisir les fondations et leur nom, et tout le monde saurait que c'est eux. Donc c'est important, de la contribution que j'ai faite moi à la souveraineté. Mais par ailleurs, effectivement, un des gros problèmes qu'on a, c'est que trop l'épargne européenne et française en particulier va trop aux États-Unis et ne finance pas suffisamment l'innovation en France, par exemple les assurances vie. Je pense effectivement que si ton assurance vie est investie dans des projets innovants en France et en Europe, elle devrait bénéficier d'avantages fiscaux par rapport à une assurance vie qui est investie aux États-Unis. Je pense que là, il faudra, ou d'autres dispositifs qu'Éric a mentionnés, ou dispositifs de ce genre, compléteraient l'idée des fondations. Mais ce qui était intéressant, c'était que tout ça était ouvert et on allait bien au-dessus de Zucman. Tu vois, tout d'un coup, mais on dit pas juste, on veut pas de Zucman et circuler, il y a rien à voir. C'est tout d'un coup, il venait avec, et c'était avec le souffle de la souveraineté et de la souveraineté avec tout le monde embarqué. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout d'un coup, on est là et Éric, on a des idées, on a envie d'inventer.
Et à la fin,
on n'est pas dans un mode d'inquiétude seulement. On est dans un mode de dire oui, il y a des défis, mais on va venir avec les idées d'Éric, d'autres idées, et on va. Et tout d'un coup, je vois une France qui se réveille, parce que les Français, quand vous leur donnez un rêve, quand vous leur donnez un but, c'est un grand pays, et c'est le pays que regarde le Canada, c'est le pays que regardent les pays asiatiques, parce qu'ils ont nos valeurs. Et ils nous regardent, nous, ils attendent que nous arrivions. Et je vois, on a des talents formidables. Eric en est un. Les chercheurs que nous avons, les mathématiciens, l'IA. Mais l'IA, c'est des Français qui ont inventé l'IA. Donc je veux dire, c'est ce moment qui a été hier.
Philippe,
c'est tout d'un coup un moment d'excitation et d'invention.
Moi,
on va inventer.
Je suis tout cœur avec vous, mais il a dit quelque chose de très important, Sébastien Lecornu, hier. Il a dit le progrès, ça se décrète pas. Quand vous dites aux gens, enrichissez-vous, quand vous leur dites, allez, passez à l'IA, il faut convaincre, embarquer, et que parfois c'est vu comme quelque chose de négatif. Et c'est là où la bataille culturelle est en partie perdue.
Non, elle n'est pas perdue, parce qu'on va vous conduire. Si vous perdez votre travail, vous aurez droit à un revenu. Si vous vous formez, vous travaillez, vous serez soutenu. On sera avec vous. L'éducation, l'école, on va refaire l'école ascenseur social, qu'elle n'est plus qu'elle était avant. Là, si vous êtes malade, vous vous ferez soigner. On vous accompagne. Donc, mais en même temps, voilà, et tout individu de n'importe où qui vient de quelque milieu social, qui veut travailler, qui veut essayer d'arriver, qui a des talents, eh bien, on est là, quoi, et on va vous pousser, et ensemble, on va y arriver. Et moi, je sais que les Français, c'est ça qu'ils attendent.
Éric.
En complément de Philippe, je pense que ce qui est très intéressant quand j'entends Philippe, c'est que on a un État qui est un État très protecteur. Certains diraient même trop protecteur. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et le sujet, pour faire écho à ce que vous venez de dire, Laure, c'est de faire de la France, de l'État français, un État facilitateur. Et facilitateur, on a une opportunité, je vais quand même le dire, historique, économique, d'arriver à déployer l'IA. Peut-être qu'on ne va pas créer les modèles fondamentaux. Je ne sais pas. En revanche, on a une capacité au niveau des entreprises de déployer l'IA, de le faire extrêmement rapidement, ce qui imposera qu'on forme nos collaborateurs, qu'on transforme les métiers. Donc là, il y a un nouveau contrat social qui est en train d'émerger, et je vais quand même le dire, les entreprises, elles sont prêtes, elles ont même pas attendu. Ça fait 3 ans que je transforme mon entreprise avec l'IA, je reviens des États-Unis et je vois le champ absolument extraordinaire des possibles, et l'État, c'est à lui de créer les conditions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplifier, ça veut dire moins réglementer, ça veut dire effectivement créer un cadre, comme le disait Philippe, dans lequel on va mettre de la flexi-sécurité, et ça veut dire travailler énormément le volet épargne.
Les États-Unis, ok, mais là vous avez Trump qui se dit je prends 5% du capital d'OpenAI, je vais réglementer l'IA, c'est pas non plus un champ où on fait
mais
tout et n'importe quoi.
Mais il y a Yann Lequin, et d'abord il y a tout ce que dit Eric, on a l'IA et la santé, l'IA et l'éducation, l'IA qui porte nos valeurs. Cette IA, c'est chez nous qu'elle va se faire. On a des données, l'IA, c'est des données de la puissance de calcul. Des données, on en a plein. Maintenant, il faut une politique industrielle pour mettre de la puissance de calcul et des centres de données, des centres de calcul.
Et là, on n'a pas perdu la bataille.
Absolument pas. Et Yann Lequin a quitté Meta pour revenir en France, faire une nouvelle révolution de l'IA à l'intérieur de la révolution de l'IA. C'est-à-dire une IA qui dépasse les modèles de langage. Et il va le faire chez nous. Voilà, et il faut encourager des Yann Lequin, et il y en a d'autres qui vont venir. Donc voilà, et il y a tout ce qu'a dit Eric, et c'est tout. Et maintenant, on va inventer, ça va être excitant. L'avenir est excitant.
En tout cas, vous y croyez, Philippe, au fait que la France a envie de progresser.
Non, mais
moi, j'y crois autant que Philippe, et l'enthousiasme de Philippe, je partage. Les chefs d'entreprise sont des gens profondément enthousiastes et positifs. On y croit.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie.